À voix nue, Pascal Vernus s'entretient avec Madame Christiane Desroches-Noblecourt. Aujourd'hui, Akhenaton et Néfertiti. Madame Desroches-Noblecourt, il y a dans l'histoire des pharaons un épisode particulièrement étonnant. C'est ce qu'on appelle l'épisode amarnien avec le pharaon Akhenaton ou Akhenaton. On dit Akhenaton ou Akhenaton selon qu'on veut avoir une prononciation qui soit plus ou moins proche de la réalité égyptienne. Peu importe. C'est un épisode absolument extraordinaire, marqué par la beauté de la reine Néfertiti. Et cet épisode vous a largement intéressé. J'aimerais donc avoir votre avis sur cette aventure amarnienne. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé. Lorsque sur le trône d'Égypte est monté le jeune prince qui allait devenir Amenophis le IV, l'Égypte allait traverser une période tout à fait originale. Celle où une partie du clergé s'était mis d'accord pour considérer qu'il y avait vraiment un Dieu unique et que toutes les autres manifestations n'étaient que quelques-uns de ces soubresauts. Donc, il ne pouvait y avoir qu'une entité qui pouvait évoquer la force divine, celle qu'on pouvait évoquer en décrivant les rayonnements du globe solaire. C'est ça Aton, celui qu'on appelle Aton et qui représente comme le soleil avec des rayons. Et ce qui est très touchant et très instructif, c'est que les rayons de ce soleil, de ce globe, sont terminés par des petites mains. Quelles sont ces mains? On peut imaginer que c'est la force divine, car très souvent ces mains tiennent des signes. Quels signes? Des signes hiéroglyphiques. Deux. Le signe de vie, Ankh, et le signe d'opulence, épanoui de la vie, Ouass. Ankh et Ouass. Ces deux signes que l'on trouve même à des époques un peu différentes, comme projetés par le globe solaire, à l'époque de la révolution, on peut le dire, amarnienne, le globe solaire projette des rayons qui sont très souvent terminés par ces signes hiéroglyphiques qui expliquent grammaticalement la force divine.
Alors Amenophis IV, qui va devenir Akhenaton, monte sur le trône et puis il va donc instituer une nouvelle religion. Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de la religion traditionnelle ?
Il est évident que d'abord sa capitale n'est plus Thèbes, où on aurait pu continuer à vénérer et appeler au secours le dieu Amon. Il est monté sur le trône sous l'égide du dieu Amon. Amon veut dire tout de même le caché, donc ça n'est pas un dieu anthropomorphe. Mais là, c'est tout à fait différent. Il semble qu'il ait voulu changer l'atmosphère même du culte dans lequel se développait celui du démiurge reconnu de l'époque, et il quitte la capitale de Thèbes, où Amon était le grand seigneur, pour se rendre dans une ville de moyenne Égypte, près de Hermopolis, qui est la ville des scribes, des savants, des prêtres, des grands prêtres. On avait fait hier allusion à Pétosiris, le grand prêtre de Thoth. C'est tout de même quelque chose de très prenant et surprenant à la fois. Tout tourne autour du dieu Thoth. Et Thoth, c'est l'intelligence divine qui est mêlée à toutes les réformes religieuses. Donc, Amon, Imon, Imen, si vous voulez, pendant cette période que l'on appelle la période amarnienne, parce que le roi quitte Thèbes et se précipite en Moyenne-Égypte à Hermopolis, la ville d'Hermès, de Thoth, et c'est l'époque où Thoth va régner dans le comportement de tous les lettrés d'Égypte qui font appel à cette entité de l'intelligence divine. Alors, le prince qui monte sur le trône, qui s'appelle Amenophis, et qui devrait porter le nom de quatrième, prend le nom de Akhenaton. Akhenaton, celui qui plaît au dieu Aton, ou à l'entité Aton. Et il apparaît dans sa nouvelle capitale, qui est à notre époque moderne, appelée Tell el-Amarna, la ville d'Hermopolis, ou à peu près à côté d'Hermopolis. Et pourquoi a-t-il choisi cette ville? C'est une ville de Moyenne-Égypte, mais il ne faut pas oublier que c'est la ville des lettrés, des savants. D'où, plus tard, un grand prêtre comme Pétosiris va surgir. Et comme beaucoup de grands prêtres sont nés, ont surgi.
La nouvelle religion choisie par Akhenaton, est-ce qu'elle va être acceptée dans toute l'Égypte ou est-ce qu'elle ne va pas susciter une opposition?
Ça, on ne le sait pas. On a trouvé, Drieton avait fait des recherches et il a trouvé quelques antiquités d'autres régions que la région d'Hermopolis pour prouver que la croyance en un dieu uni, Hermès, était réelle. Mais ça ne peut pas être prouvé. Il y a des essais, il y a quelques exemples, il y a même 3 ou 4 objets qui ont été étudié par l'abbé Drieton, qui en a fait un article célèbre sur les reliques de l'art amarnien, mais c'est limité quand même à la région. On ne peut pas croire que ça ait complètement envahi l'Égypte totale à l'époque que l'on a appelée l'époque amarnienne. L'époque qui garde son titre, c'est surtout parce que ça fait référence à la capitale qui était Amarna pour Amenophis IV.
Est-ce que l'hérésie d'Akhenaton n'a pas suscité une opposition à Thèbes?
Certainement. Certainement. On n'en a pas les preuves les plus profondes, mais il est évident que les prêtres d'Amon n'ont pas du tout accepté la précédence qu'on leur reconnaissait à ce dieu d'Hermopolis, que l'on présentait aussi comme entité unique.
Est-ce que de son côté, Akhenaton ne s'est pas livré à des mutilations sur les images et sur le nom du dieu Amon?
Je ne peux pas vous affirmer que c'est Amenophis IV qui s'est livré à ces déprédations. Ça, je ne peux pas vous le dire. Certainement des prêtres qui sont dans sa suite. Lui, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir.
Cet épisode amarnien, comment se termine-t-il?
Je me le demande moi-même. A-t-il persisté dans certaines régions, dans certains lieux de culte? Mais le dieu Amon ressurgit tout de suite. L'entité Amon, légèrement transformée. Parce que c'est le dieu unique, mais c'est en même temps l'invisible, c'est le souffle divin par moment. Mais on ne peut pas savoir exactement. Mais en tous les cas, l'épisode amarnienne qui a marqué son temps disparaît quand même.
Akhenaton a donc régné 17 ans, puisqu'on
n'a pas... Il a laissé des monuments très extraordinaires, par leur originalité, par leur beauté, par la documentation qui nous en reste, dont des petites pierres qui sont toutes de la même taille qu'une grosse brique que l'on a appelée dans l'archéologie moderne Talatat, parce que ces pierres ont la taille de 3 briques. Beaucoup de ces monuments ont été construits à Karnak à cette époque. Quand l'hérésie amarienne a disparu, on a essayé de les faire disparaître, mais on ne les a pas détruites. Les Égyptiens sont des gens pratiques. Ils les ont utilisés pour faire des éléments dont on se servait pour bourrer les entrailles des pylônes du dieu Amon. Voilà.
Et alors, lorsque les archéologues ont démonté ces pylônes,
Ils ont retrouvé les fameuses briques.
Ils ont reconstitué les monuments d'Akhenaton qui avaient été démontés. On a donc fait un puzzle, c'est un véritable puzzle que l'on a reconstitué.
Ah, ils l'ont reconstitué. Et il y en aura encore d'autres à reconstituer, c'est certain. D'autres que l'on n'a pas trouvés, mais qu'on retrouvera. Ainsi, par exemple, on a retrouvé des Talatat Amedamoud. On en a trouvé encore à d'autres endroits. Ils ont voyagé, ces Talatat, parce que ce sont des fragments de monuments, des éléments, qui ont été prélevés des monuments du temps d'Amenophis IV, et ils ont été après ça utilisés comme éléments de reconstruction pour d'autres temples, dédiés à d'autres entités. On en a trouvé un peu partout.
Alors vous-même, je crois, vous avez participé à l'acquisition par le Louvre d'un des monuments les plus prestigieux du roi Akhenaton. Je crois que pour remercier la France d'avoir participé aux travaux en Nubie, le musée du Louvre a reçu, alors que vous étiez conservatrice, en don de l'Égypte, un monument exceptionnel qui était un buste colossal provenant du temple de Karnak dressé par Akhenaton.
Oui, ça a été extrêmement beau, parce qu'il y a eu, après cet élan de générosité de toutes les nations qui sont venues essayer d'aider la Nubie, l'Égypte a voulu remercier l'action des nations qui se sont réunies autour de la Nubie, et l'Égypte a établi une liste de monuments qu'elle allait offrir à ceux des pays qui avaient besoin de recevoir un témoignage de reconnaissance. Et parmi ces objets, il y avait quelques objets qui proviennent de Tell el-Amarna, dont le buste, un buste d'Amenophis IV, pas entier. Il manque une partie de la coiffure, il manque une partie des épaules, il manque une partie de la fin du buste. Mais c'est très reconnaissable, c'est surtout magnifique. Et vous savez, pour des objets de telle importance stylistique, un fragment évoque tout l'ensemble, n'est-ce pas ?
Absolument.
Alors, pour remercier les nations qui ont aidé, j'ai aidé les Égyptiens à réunir quelques éléments du musée du Caire dont l'Égypte voulait bien se départir, afin de remercier ces nations qui avaient aidé à la sauvegarde des monuments de la Nubie. Et c'est comme ça que j'ai pu, après un comité spécial de distribution, recevoir un fragment de buste d'Amenophis IV amarnien qui est maintenant au Louvre.
Alors ce buste pose des problèmes d'interprétation, parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Le pharaon est représenté nu, mais il lui manque quelque chose que certains jugeraient important, c'est tout simplement son sexe. Le pharaon est rarement représenté nu, mais il arrive qu'on ait quelques représentations du pharaon nu, mais c'est plutôt sous la forme de ce qu'on appelle le ka.
Mais alors ça pose des problèmes terribles qui ne sont pas totalement résolus. Si Amenophis IV est représenté tout nu, sans sexe, aurait-il simplement l'allure du dieu Osiris blessé, c'est-à-dire le dieu Osiris victime de son ennemi le mal, Seth, dans son aspect où il n'est pas encore réparé. C'est ça le problème.
Oui, il faut rappeler la légende, Osiris est tué par Seth et est découpé en petits morceaux. Les morceaux sont jetés au fleuve et Isis reconstitue le cadavre, sauf le sexe qui a été avalé par un poisson. Alors, vous pensez que le manque de sexe sur ce colosse d'Akhenaton pourrait être une allusion au fait que le cadavre démembré d'Osiris a été reconstitué, mais que le sexe manquait?
C'est ce que je pourrais penser. je ne sais pas ce que les autres collègues pourraient avancer. C'est une interprétation. Je pense que ça doit être pas trop trop loin de la vérité.
Lorsque l'on regarde ce colosse, et en général, lorsqu'on regarde les produits de l'art de l'époque de Tel Amarna, on est frappé par le style inhabituel. Le pharaon est représenté avec un ventre ballonné, avec des cuisses courtaudes, avec des proportions inhabituelles, un visage émacié. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces représentations. À votre avis, est-ce que il s'agit de reproduire une anomalie pathologique du pharaon ou est-ce que quelque chose de purement symbolique?
Beaucoup pensent que c'est une anomalie. D'autres pensent qu'on a voulu évoquer un hermaphrodite. Ils se sont peut-être pas trompés. Mais il est bien difficile de résoudre le problème aussi facilement, voilà ce que je peux vous dire. Il y a des éléments pour, des éléments contre, des suggestions qui ne satisfont pas complètement la curiosité des gens. C'est très difficile à définir.
Il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que Néfertiti était une belle femme. On pense en particulier à ce portrait magnifique qui est sans doute l'objet d'art le plus célèbre de l'Égypte ancienne, le portrait du musée de Berlin. Est-ce que vous pourriez nous raconter la manière dont ce portrait de Berlin est venu justement à Berlin à partir de l'Égypte?
Oui. Avant tout, je réponds à la première question. C'était certainement une très belle femme. Et je crois qu'Amenophis IV ne s'est pas trompé en la prenant pour compagne. C'est tout ce qu'on peut dire. Quant aux éléments qui entourent l'histoire de ce buste, ils sont très nombreux. Ils ne sont pas toujours à la gloire des archéologues allemands. Mais nous sommes dans l'archéologie, nous faisons de l'archéologie. Alors, parlons de description archéologique et de rien d'autre. Ce buste provient, maintenant nous en sommes assurés, des fouilles de Tel El Amarna, où le directeur des fouilles allemandes, juste avant la guerre de 14, Ludwig Borchardt, travaillait. Et avant la déclaration de guerre, Borchardt a fait venir, comme chaque année, à la fin d'une année de fouilles, les objets qu'il avait trouvés, les monuments qu'il avait trouvés au musée du Caire, pour que le partage entre le musée du Caire et le fouilleur se fasse et que le fouilleur puisse ramener en Allemagne le petit lot d'antiquités auquel les Égyptiens pensaient qu'il avait droit. La guerre est arrivée à ce moment-là. Je crois me souvenir que ce que l'on m'a dit, dont mon vieux maître Gustave Lefebvre, qui à ce moment-là n'était pas encore professeur à la Sorbonne, mais jeune étudiant qui venait d'être nommé conservateur du musée du Caire. Il a fait partie du partage entre les antiquités que les uns devaient emmener dans leur pays et que certains devaient remettre au gouvernement égyptien. Voilà le tableau dans lequel s'est passée l'histoire. Quant au groupe de Néfertiti et aux objets qui ont été trouvés autour de Néfertiti avant 1913, ils ont été partagés entre Berlin et le Caire et devaient prendre le chemin de ces villes. Qu'est-il arrivé pour le buste? Une mauvaise direction prise au dernier moment pour que Néfertiti gagne Berlin au lieu de gagner le Caire? Il semble que ce soit, elle a raison, la direction prise par cet objet pour que le voyage soit dérouté. Ça, on ne le sait pas, mais on s'imagine facilement comment cela a pu être fait. L'habileté de nos voisins d'Outre-Rhin n'est pas mise en cause. Tout le monde sait qu'ils ont été capables de faire des merveilles pour dérouter un objet officiellement. On se demande comment. Mais en tous les cas, cet objet s'est trouvé dans les caisses destinées à Berlin. Certains pensent que l'ensemble des plus beaux monuments qui viennent des fouilles de Tutankhamon à cette époque, trouvés par Borchardt, avaient été recouverts de plâtre, avec une soie entre les deux, entre le monument et le plâtre, pour qu'au partage, on ait cru que ce soit des moulages, et ils ont été envoyés à Berlin. C'est ce que l'on a dit, mais c'est certainement pas ce qui a été fait. Beaucoup de fonctionnaires, aussi bien égyptiens qu'allemands, savent que le tour de passe-passe n'a pas été fait de la même façon. Et qu'on a détourné le buste de Nefertiti, parce que la nation prenante qui avait le plus travaillé à Tell el-Amarna désirait beaucoup ce buste magnifique que Borchardt lui-même avait trouvé et a tout fait pour qu'il arrive à Berlin. Voilà ce qu'on peut dire. La majorité des égyptologues savent qu'il a été détourné. Voilà.
Akhenaton a laissé une trace non seulement dans l'histoire de l'égyptologie, mais dans l'histoire mondiale et dans la philosophie même, à cause de Freud. Freud a écrit...
Celui-là encore a mis son nez dans des histoires. Il fallait bien qu'il raconte des histoires.
Il a écrit donc ce livre fameux, Moïse et le monothéisme, dans lequel il tente d'identifier Akhenaton à Moïse. Ce livre a eu une destinée prodigieuse, puisque encore chaque année, à l'heure actuelle, pratiquement, il y a un disciple de Freud qui réécrit le livre du maître. Qu'en pensez-vous ?
Je trouve que c'est ridicule, quand on n'est pas égyptologue, d'ériger toute une théorie sur une vérité soi-disant historique et des monuments archéologiques que l'on n'est pas capable d'interpréter soi-même. Alors, je pense que Freud s'est mis un doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule.
Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des points communs entre le monothéisme d'Akhenaton, puisque Akhenaton voulait adorer uniquement Aton à l'exclusion de tous les autres dieux, et le monothéisme qu'on appelle mosaïque, c'est-à-dire le monothéisme...
Je ne crois pas. Le point commun peut se retrouver ailleurs. C'est un hasard. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait même un point commun. C'est Freud qui a voulu en trouver un point commun. Et on pourrait en trouver d'autres exemples. Mais c'est trop facile. C'est traiter l'histoire avec une légèreté déconcertante.
Nous venons d'évoquer justement Moïse et la Bible. Précisément, il y a ce fameux problème de l'Exode. Vous savez que chaque année, pratiquement, on propose une thèse pour situer l'Exode dans l'histoire de l'Égypte ancienne, soit au temps de Ramsès II, soit au temps d'Akhenaton, soit au temps des Hyksos. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si j'essaye de prendre la place de l'égyptologue moyen qui a savamment étudié l'histoire, peut-être sans imagination excessive, mais honnêtement, je suivrai la théorie d'un départ égyptien, peut-être à l'époque de Ramsès II, d'une théorie d'habitants des rives du Nil, ou du moins du Delta, qui sont partis de ces régions limitrophe avec le Proche-Orient, non pas en exode, mais pour des raisons politico-religieuses. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant, mais je n'en suis pas complètement assuré.
Est-ce que vous pensez que c'est un événement historique ou que c'est simplement une construction faite après coup pour donner un lustre à l'histoire d'Israël ? Est-ce que vous pensez qu'on peut l'enraciner, l'Exode, réellement dans l'histoire de l'Égypte pharaonique ou simplement que l'Égypte pharaonique est convoquée uniquement à titre de cadre ?
C'est la seconde hypothèse qui me paraît extrêmement juste et justifiée. Et justifiée, c'est certain. À mon avis, c'est ça. Entre nous, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que des Égyptiens heureux en Égypte aillent de l'autre côté, qui est un pays qui est beaucoup moins riche que l'Égypte, beaucoup moins heureux. Tout ça, ce sont des légendes.
C'était à voix nue. Pascal Vernus s'entretenait avec Christiane Desroches-Noblecourt. Demain, les prolongements de la civilisation pharaonique. Mm.